السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں پہلے تو ایک امر کا ذکر کروں گا.
Pour le sermon d'aujourd'hui, je voudrais de prime abord mentionner un point qui est une partie de mon précédent sermon, un point que je n'ai pas pu mentionner la dernière fois. Et après cela, je vais mentionner quelques versets du Saint-Coran qui concernent le sujet d'aujourd'hui. Au cours de mon précédent sermon, j'ai déclaré que rizq ou provision ne signifie pas uniquement les provisions matérielles ou les richesses matérielles uniquement. Cela concerne en fait toutes les aptitudes de l'homme, ses aptitudes spirituelles que Dieu lui a octroyées. Tout cela tombe dans la catégorie de rizq. Cela concerne toutes les capacités qu'il possède. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part de Dieu cette provision dans toute sa plénitude. Ensuite, il a distribué cela à ses compagnons. Cette rizq a pris la forme du Saint-Coran. Rizq signifie aussi sa sunna, ses directives qu'il a données à ses compagnons. Et ses compagnons se sont remplis les girons de ses provisions. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des prophéties concernant les derniers temps. Avant son avènement, le monde fut dans l'obscurantisme spirituel. Et cet obscurantisme a atteint son apogée tout juste avant son arrivée. Et suite à sa venue, le saint prophète, paix soit sur lui, a distribué cette provision. Et des centaines de milliers de personnes qui étaient mortes spirituellement ont été ranimées. Il nous a fait aussi comprendre qu'il y aura un temps où les musulmans ne seront musulmans qu'en apparence. Et cette provision va tarir. Les musulmans vont négliger cette provision et ils ne pourront plus profiter de ce trésor spirituel. Et un champion de Dieu viendra de la part de Dieu. Il sera le Messie promis et le Mahdi, et il va distribuer ce trésor du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi wa sallam a distribué cette provision spirituelle. Et dans un de ses écrits, il déclare que j'évoque à présent ce hadith qui a été mentionné dans le recueil d'Abu Daoud et je vais vous indiquer comment ce hadith s'applique à moi. Dans cette prophétie, il est dit que quelqu'un va venir de Samarcande. Et cette personne va renforcer la famille du prophète. Tous les croyants vont devoir le soutenir. Dieu m'a révélé que cette prophétie est la prophétie de la venue du Messie qui sera l'imam. Parmi les musulmans, ces deux prophéties concernent le même sujet. Et ces deux prophéties s'appliquent à moi. Il y a des signes concernant la venue du Messie, et il est dit qu'il viendra lorsque les musulmans seront au comble de la décadence. Le Messie viendra pour éloigner leur dénuement spirituel. Et il va distribuer des joyaux et des trésors de connaissances et de vérité. Et il va leur accorder autant que les autres en seront rassasiés, et toute personne en quête de la vérité va en profiter et va sortir de son dénuement spirituel. Tous ceux qui étaient affamés de spiritualité vont consommer ces mets et ces boissons de connaissances, et on va remplir leur giron de ces joyaux de connaissances, et on va leur présenter l'élixir du Saint-Coran. Voilà donc le trésor spirituel. Mais il y a des malchanceux qui ne veulent pas en profiter, et il y a d'autres qui en sont affamés. Il y a des personnes qui sont affamées de vérité et ces personnes vont certainement en profiter. Le Messie premier, l'Islam, nous a offert ce trésor qui va nous rapprocher de Dieu. Un trésor qui va emplir les cœurs de l'amour du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui va prouver la suprématie de l'Islam sur toute autre religion. Il nous incombe donc de remplir nos girons de ces joyaux spirituels, de ces connaissances. Toute personne qui comprend la langue ourdou, qui peut lire la langue ourdou, doit profiter de ce trésor, doit lire ces livres du Messie promis à l'Islam. Et on doit s'évertuer en ce sens. J'ai déjà évoqué ce point auparavant. On doit faire ces efforts au niveau de la communauté et au niveau des organisations auxiliaires. Quant à ceux qui ne connaissent pas la langue ourdou, ils doivent faire de leur mieux pour lire les traductions des livres du Messie premier l'Islam dans leur langue respective. On est en train de traduire ces ouvrages. Le plus grand nombre de ces livres ont été traduits dans la langue anglaise. Il y a une bonne partie qu'on est en train de traduire dans d'autres langues. Qu'Allah nous donne la possibilité de transmettre ces trésors spirituels à un plus grand nombre de personnes dans le monde dans leur langue respective. Je vais maintenant parler à propos de l'attribut al-Hasib de Dieu. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah déclare Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et que vous révéliez ce que vous avez dans vos cœurs ou que vous le teniez caché, Allah vous en demandera compte, puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, et Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. La foi du croyant sera complète lorsqu'il fera tout le temps son examen de conscience, lorsqu'il va s'évertuer à suivre ces enseignements que Dieu nous a transmis par l'entremise de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'agit pas ainsi, ses actes d'adoration ne serviront à rien. Les services qu'il est en train de rendre à la communauté et que les gens reconnaissent autour de lui dans la société, eh bien, ces services ne serviront à rien. Allah est celui qui connaît l'état des cœurs. Il sait très bien ce qu'il y a en son cœur. Si cette personne est en train d'accomplir ses actions par ostentation, cela ne servira à rien. Si cette personne est en train de transmettre le message de l'islam, mais qu'elle ne pratique pas ses enseignements elle-même, elle pourra cacher cela des regards des hommes, mais ne pourra pas cacher cela du regard de Dieu. Allah a donc clarifié cela aux yeux du croyant, c'est-à-dire que Dieu connaît tout, on ne peut rien cacher à Dieu. Et puisqu'il voit tout, puisqu'on ne peut rien le cacher, on sera rétribué selon ses intentions. C'est pour cette raison aussi que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que les actions dépendent des intentions. Toute action sera jugée selon les intentions qui la motivent. Dieu seul connaît les intentions. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Il connaît toutes choses qui s'y trouvent et il sait aussi ce qu'il y a au fond du cœur de l'homme. Il connaît toutes vos actions, que vous les dévoiliez ou pas. Il sait aussi ce que vous avez au fond du cœur. C'est pour cette raison que vous devez vous purifier l'âme et vous devez vous consacrer à Dieu, vous devez purifier vos cœurs et vous consacrer à Dieu. Allah déclare « Yuhasibkum bihillah » il va vous demander des comptes. Il nous fait comprendre donc que vos actions seront rétribuées selon les intentions qui les motivent. Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah déclare « Wa nadu'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fa la tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha » Wakafa bina hasibin. Et nous établirons des balances justes au jour de la résurrection pour que nulle âme ne soit lésée en quoi que ce soit. Et même si c'était le poids d'un grain de moutarde, nous le démontrerions. Et nous suffisons bien pour tout calculer. Allah récompense les personnes selon leurs actions, et Dieu n'est point injuste. Il connaît l'intention des cœurs, c'est pour cette raison qu'il va juger si ces prières ont été accomplies pour sa cause ou si elles ont été accomplies par ostentation. Est-ce qu'on fait de l'aumône pour la cause de Dieu ou est-ce qu'on est en train de le faire pour s'afficher uniquement? Quelle est la motivation derrière toute action de vertu? Allah déclare donc que vous devez tout le temps avoir en tête la purification de votre âme. C'est cette purification qui doit être la motivation de toute action de votre part. Ensuite, il y a d'autres pensées qui nous poussent à commettre des mauvaises actions ou accomplir des bonnes œuvres. La miséricorde de Dieu a prééminence sur toute chose. C'est pour cette raison qu'il ne châtie pas toute pensée incitant au mal qui traverse notre esprit. Mais lorsqu'on nourrit cette pensée au cœur et lorsqu'on forme une intention ferme d'accomplir cette action dès qu'on aura l'occasion, dans ce cas, on sera certainement sanctionné pour cette pensée incitant au mal. Si par exemple, une personne nourrit animosité à l'égard d'une autre et que cette personne prend la ferme intention de nuire à l'autre dès qu'elle aura l'occasion, si elle décide donc de traduire ses intentions dans la pratique, elle sera certainement châtiée par Dieu. Mais puisque l'homme est faible et puisque des pensées incitant au mal peuvent lui traverser l'esprit, c'est pour cette raison que Dieu n'attrape pas immédiatement pour toute pensée. Mais si on fait la ferme intention d'accomplir cette action, c'est là que l'on sera attrapé. Si on ne forme pas de telles intentions, et si on ne cherche pas des occasions, Allah pardonnera ses mauvaises pensées. À ce propos, dans un hadith, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Dieu a donné cet ordre aux anges en leur disant que si mon serviteur a l'intention de commettre une mauvaise action, cette intention ne sera pas un péché de sa part, mais s'il essaye de traduire cette intention de la pratique, ce sera un péché de sa part. Si par contre, il fait l'intention d'accomplir une bonne œuvre, mais qu'il n'arrive pas à le faire pour certaines raisons, il sera récompensé une fois pour cette intention, et s'il arrive à traduire cette intention dans la pratique, il sera récompensé 10 fois. Voilà donc comment Dieu est gracieux à l'égard de ses serviteurs. Le croyant doit tout le temps corriger ses intentions et ses actions. Il doit avoir à l'œil ses péchés et ses manquements afin qu'il puisse profiter de la miséricorde de Dieu, afin qu'il puisse se protéger de la punition divine. Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah déclare: Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché le registre de ses œuvres, et au jour de la résurrection, nous sortirons pour lui un livre qu'il trouvera grand ouvert. Ensuite, il est dit: Lis ton livre. Aujourd'hui, ta propre âme suffit pour faire le décompte contre toi. Encore une fois, Dieu a averti l'homme en le faisant comprendre qu'il doit regarder de près ses actions. Toute action, bonne ou mauvaise, n'a pas été jetée aux oubliettes. Comme il a été dit auparavant, Allah va vous demander des comptes à propos de toute action, que vous la cachiez ou que vous la dévoiliez. Il va vous demander des comptes à propos des choses que vous cachez en votre cœur. Et ce n'est pas la peine de cacher ces actions, car toute action a été consignée dans un registre qui a été attaché à votre cou. C'est un registre de toutes vos actions accomplies quotidiennement. On y consigne les bonnes œuvres et les mauvaises actions, et au jour de la résurrection, ce livre sera présenté. Dans la plupart des cas, les hommes oublient leurs actions ou leurs péchés, ou ils n'accordent pas d'importance à ces péchés et ne s'en souviennent pas. Allah déclare que dans ce registre, attaché à votre cou et consigné, toute action accomplie par vous ainsi que la date. Ces actions font maintenant partie intégrante de votre registre d'action. Et on ne pourra pas les effacer de ce registre. L'homme doit être vigilant. Toute action accomplie par l'homme y sera consignée. Donc, au lieu d'être contraint au jour de la résurrection de faire face à l'humiliation en lisant le registre de ses mauvaises actions et de mériter le châtiment de Dieu, au lieu donc de faire face à ces conséquences, vaut mieux faire une analyse quotidienne de ses actions. Cet examen de conscience de l'homme va le protéger des doigts accusateurs de la société. Car dans certains cas, il arrive à commettre des bévues et il doit faire face aux critiques des gens de la société. Il sera donc vigilant et il pourra se protéger des critiques des autres. Et ainsi, il pourra avoir le plaisir de Dieu. Il faut donc s'évertuer dans la bonne direction pour qu'on trouve consigné dans ces registres que des bonnes œuvres. Mais de toute manière, on ne pourra pas accomplir de bonnes œuvres sans la grâce de Dieu. Dans un autre verset, Allah déclare « Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi » Alors quant à celui à qui sera remis son dossier en sa main droite, « Fasafa yuhasabu hisaban yasira » lui, en vérité, aura un compte facile. La main droite ici signifie qu'il aura accompli de bonnes œuvres. Leurs bonnes œuvres ont dépassé leurs mauvaises actions. Ils auront donc des comptes faciles à rendre. De par sa grâce, Allah va faciliter leurs comptes. Et quant aux autres, ils auront des comptes difficiles. Ils recevront leur registre par derrière. La dernière fois, j'ai mentionné un hadith à ce propos. Le conte qui a été mentionné veut tout simplement dire qu'Allah va faire preuve de miséricorde à l'égard du croyant. Quant à ceux qui vont recevoir leur livre par derrière, Allah va leur dire: faites vos comptes, lisez votre livre, car vos âmes suffisent pour rendre compte. Allah déclare aussi que Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, il pardonnera qui il veut et châtiera qui il veut. Cela ne veut point dire qu'il va user de contraintes. Cela veut tout simplement dire qu'il va donner à chaque âme leur livre et va leur dire: lisez votre livre. Et les âmes des pécheurs vont témoigner eux-mêmes. Ils vont déclarer que nous méritons châtiment en raison de nos mauvaises actions. Allah n'est point injuste. Il récompense même pour les actions les plus insignifiantes. Il est aussi le maître, il est tout-puissant, il peut aussi pardonner. Le Messie promis, alayhissalam, a commenté sur ce verset et déclare: le Saint-Coran a en plusieurs occasions affirmé que la vie après la mort n'est pas un phénomène nouveau en soi, mais en fait, toutes les manifestations irrelatives n'en sont que des reflets de la vie d'ici-bas. Par exemple, il est écrit: nous avons fermement attaché au cou de chaque personne ses œuvres, et au jour du jugement, nous les rendrons apparentes et nous les présenterons devant eux sous la forme d'un livre grand ouvert. Dans ce verset, le mot ta'ir signifie oiseau, et le mot oiseau a été utilisé dans un sens métaphorique pour désigner les actions. Car chaque action, bonne ou mauvaise, une fois accomplie, s'envole tel l'oiseau. L'effort fourni ou la joie éprouvée disparaît aussitôt. Néanmoins, l'empreinte de l'action, superficielle ou profonde, marque le cœur. L'homme oublie les actions qu'il accomplit, et ensuite, l'effet de l'action laisse une empreinte sur le cœur. Le Saint-Coran présente le principe selon lequel tout acte laisse une empreinte imperceptible sur le cœur, empreinte qui appelle une réaction divine correspondante qui va préserver le bien ou le mal de l'acte. Cette empreinte va marquer le cœur, la face, les yeux, les mains et les pieds, constituant en quelque sorte un fichier secret qui sera ouvert au grand jour dans l'au-delà. Allah ne s'est pas contenté d'encourager l'homme à accomplir de bonnes œuvres et de l'empêcher de commettre de mauvaises actions. Il sait que l'homme est faible et il sait aussi qu'il peut être enclin à commettre des péchés. Et il sait aussi qu'il pourra mériter châtiment en raison de ses péchés. De par sa grâce, Dieu a enseigné à l'homme des prières afin qu'il puisse se prémunir du châtiment du feu et afin de jouir du vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Afin que l'on soit enclin à accomplir de bonnes œuvres et afin que l'on soit enclin de prier et afin que le croyant soit tout le temps vigilant à propos des péchés. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah déclare à ce propos « وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » Il y a d'autres qui disent « Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ainsi qu'une belle part dans l'au-delà et protège-nous contre le châtiment du feu. » Ensuite, il est dit « أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ » Ceux-là recevront une belle part de ce qu'ils ont acquis et Allah est prompt à faire les comptes. Le croyant ne se contente pas de faire des efforts pour avoir le bien en ce bas monde uniquement. Voilà ce que déclare Dieu. C'est vrai que le croyant cherche les biens de ce bas monde, mais il cherche aussi les biens pour la vie de l'au-delà. Ensuite, il demande à Dieu de le protéger du châtiment du feu. Le feu ne signifie pas uniquement le feu de l'au-delà. Cela concerne toute chose qui peut être source de malheur, source de souffrance. Tout cela se transforme en feu. Il doit tout le temps prier pour qu'Allah le protège de ses maux, de ses feux. Voilà donc les signes du véritable croyant, selon Dieu. C'est-à-dire, il cherche tout le temps le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Et il fait de son mieux pour jouir de la protection de Dieu et pour se prémunir des actions qui vont l'éloigner de Dieu. Cette prière que j'ai évoquée est une prière complète, une prière importante pour le progrès spirituel et matériel de toute personne, quel que soit son niveau au sein de la société. C'est une prière que nous devons réciter souvent. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les croyants à réciter cette prière afin de jouir du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Le croyant demande les hasanat d'ici-bas et les hasanat de l'au-delà, des hasanat ou des biens qui sont considérés comme tels par Dieu. Parmi ces hasanat, il y a une provision pure, des sources de revenus purs, le fait de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les autres. Cela concerne aussi ses actes d'adoration qu'il doit accomplir pour la cause de Dieu. L'homme demande aussi tous les biens ou tous les hasanat dont il a connaissance ou dont il n'en a pas connaissance. Lorsqu'il va recevoir cela de la part de Dieu, il pourra se protéger de toute souffrance en ce bas monde. Ces actions qui pourront le pousser vers ce feu. Grâce à cette prière, donc, Allah va le protéger de ses maux. Et c'est grâce à ces hasanat d'ici-bas que l'on pourra jouir des hasanat de l'au-delà. Je vais présenter à ce sujet deux dires du Messie premier l'Islam. Il déclare que si les relations du croyant avec le monde sont étendues, il jouira d'un statut plus élevé dans l'au-delà, car le croyant a pour objectif sa foi. Et les biens et les richesses de ce bas monde sont les serviteurs de sa foi. Le monde ne doit pas être son objectif. Le but de ses efforts en ce bas monde doivent être pour sa foi. Les efforts qu'il entreprend doivent être pour faire du monde le serviteur de sa foi. Par exemple, l'homme prépare sa monture et ses provisions pour son voyage et son objectif est d'atteindre sa destination. Son objectif n'est pas d'acquérir une monture ou des provisions. L'homme doit donc faire des efforts pour acquérir ce qui est bien ici-bas et pour en faire le serviteur de sa foi. Dieu a enseigné à l'homme cette prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ici, on a mentionné en premier le monde. Mais quel est le monde qui a été mentionné ici? Ce sont les biens de ce bas monde, les hasanatud dunya qui se transformeront en biens dans l'au-delà. Et l'on comprend que l'homme doit toujours avoir en tête la vie de l'au-delà lorsqu'il fait des efforts pour jouir des biens d'ici-bas. Et dans la parole « Hasanat Dunya », on trouve mention de tous ces moyens légitimes que l'homme doit utiliser pour acquérir les biens de ce bas-monde. Vous devez acquérir les biens de ce bas-monde en utilisant les moyens qui vont générer le bien. N'utilisez pas des moyens qui vont nuire aux autres, ou qui sera source d'humiliation. Un tel monde va certainement générer le bien dans l'au-delà. Celui qui se consacre à Dieu ne tombe jamais dans le dénuement. Celui qui se consacre à Dieu et à sa foi devient vigilant et il n'est point négligent ou paresseux. Dans un hadith, Hadrat Amar bin Hazima rapporte que Hadrat Umar a dit à son père: « Qu'est-ce qui t'a empêché de cultiver ta terre ?» Mon père a répondu que je suis vieux et demain je vais mourir. Omar a répondu que tu dois certainement planter des arbres sur ton terrain. Et le rapporteur a déclaré que j'ai vu que Hazrat Omar et mon père ont planté des arbres sur cette terre et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tout le temps pour ne pas tomber dans la paresse et dans le dénuement. Je dis encore une fois, ne soyez pas paresseux. Allah ne vous interdit pas d'acquérir les bonnes choses de ce bas monde. Au contraire, il vous encourage à prier. Ici, le Messie premier Islam a cité un hadith dans lequel une personne a déclaré que moi je n'ai pas besoin des biens d'ici-bas parce que je vais mourir bientôt. Mais Hazrat Omar lui a convaincu en disant que non, tu dois cultiver ta terre. Tant que tu vivras, tu devras faire des efforts pour jouir des biens d'ici-bas. Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour tes enfants. Cela va se transformer en hasana pour eux, pour ceux qui vont te suivre. Ces moyens matériels sont importants pour la foi de ses enfants dans certains cas, afin que ses enfants soient à l'abri des malheurs et afin que la pauvreté, le dénuement ne les éloigne pas de la foi. C'est-à-dire, hasana ne signifie pas les biens pour soi uniquement, mais cela concerne aussi les hasana ou les biens de ses enfants, de ses générations futures. Cela va se faire à condition qu'on ait pu faire une bonne éducation morale et spirituelle de ses enfants, à condition qu'on marche sur les voies de la taqwa. Ce sont de tels enfants qui vont prier pour leurs parents et ces prières vont se transformer en hasana pour les parents. une des prières enseignées par Dieu est Rabbirham Homakama Rabbayani Sarira. Ô Allah, aie pitié de mes parents tout comme ils ont eu pitié de moi au cours de mon enfance. Eux, ils m'ont accordé les hasanas d'ici-bas. Dans un autre de ses écrits, le Messie premier, l'Islam, déclare que l'homme a besoin de deux choses pour jouir du bonheur ici-bas. Il a besoin de cette vie courte ici-bas et de la protection contre les malheurs, les souffrances et les épreuves qui sont liées à cette vie. Il doit être à l'abri de ces malheurs et il doit aussi être à l'abri des péchés et des maladies spirituelles qui vont l'éloigner de Dieu. Voilà donc le bien d'ici-bas. Le bien d'ici-bas est de se protéger de tout mal physique et spirituel, d'une vie pécheresse et de l'humiliation. Khuliqal insana da'ifa. L'homme a été créé faible. Ici, le Messie premier des Islam déclare que l'homme a besoin de deux choses, c'est-à-dire de cette vie courte, alors que d'autres considèrent que leur vie peut être très longue. L'homme a donc besoin de cette vie courte et a aussi besoin de la protection contre les malheurs et les souffrances et les épreuves qui sont liées à cette vie. Il doit se protéger des épreuves et des malheurs et doit se protéger aussi des péchés et d'une vie pécheresse qui vont l'éloigner de Dieu. Voilà donc les hasanas de la vie d'ici-bas. Le Messie premier, l'Islam, déclare que si on a mal à l'ongle, c'est le corps tout entier qui souffre. Dans cet cas, l'homme nuit à sa vie d'ici-bas. Voyez par exemple les prostituées qui vivent dans la turpitude et qui sont comme des animaux et qui ignorent tout à propos de Dieu et de la vie de l'au-delà. Le bien d'ici-bas signifie que l'on se protège de tout malheur qui concerne sa vie sur terre et dans l'au-delà. Et il est dit « Wafil akhirati hasana ». La vie de l'au-delà est le fruit de la vie d'ici-bas. S'il arrive à acquérir le bien d'ici-bas, ce sera un bon augure pour sa vie dans l'au-delà. Si l'homme arrive à acquérir les hasanat ad-dunya, c'est-à-dire le bien d'ici-bas, ce sera un bon augure pour lui, pour la vie de l'au-delà. Il sera erroné de dire, comme certains, qu'on n'a pas besoin des biens d'ici-bas. La santé physique est importante pour le confort de la vie, et c'est grâce à cela qu'il pourra faire des efforts pour sa vie dans l'au-delà. C'est pour cette raison qu'il est dit que ce monde-ci est le champ de la vie de l'au-delà. Celui à qui Allah a accordé la santé, l'honneur et des enfants, et qu'il accomplit aussi de bonnes œuvres, cette personne peut avoir l'espoir que sa vie dans l'au-delà sera bonne. C'est ainsi donc que l'homme va créer en lui la crainte de Dieu, mais il ne doit pas croire qu'il a accompli des actions qui vont le faire mériter le plaisir de Dieu. Il peut avoir cet espoir que sa vie dans l'au-delà sera bonne, car Allah a dit que les biens d'ici-bas vont le servir de la vie dans l'au-delà. Ensuite, dans le verset suivant, il est dit « Ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab » Ceux-là recevront une belle part de ce qu'ils ont acquis et Allah est prompt à faire les comptes. Ici, Allah déclare que ceux qui vont faire cette prière vont recevoir les biens d'ici-bas et ces personnes qui vont agir en ce sens seront récompensées pour leurs actions. Certainement, ces personnes vont recevoir les biens d'ici-bas et de l'au-delà. Ils vont recevoir les biens de la vie d'ici-bas. Ils vont recevoir les biens qui concernent leur foi et vont recevoir les biens de l'au-delà. Et il est dit qu'Allah est prompt à faire les comptes Cela veut tout simplement dire que lorsque les prières vont se joindre aux actions eh bien, Dieu va récompenser ses actions. Dieu va le récompenser pour ses actes de vertu et il va le faire immédiatement. Dieu ne s'endette pas et il récompense immédiatement. Il va écrire cela dans le compte de l'homme et il va manifester ses récompenses au moment opportun. Tout Ahmadi est témoin de l'acceptation de ses prières. Chacun d'entre nous a fait des expériences à ce propos. C'est là encore une fois une manifestation des hasanat de la part de Dieu. Il y a une autre prière que l'on récite généralement après le tashahhud et le darud. C'est une prière du prophète Abraham. Rabbi jalni muqima salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Mon Seigneur, fais-moi observer la prière et mes enfants aussi. Ô notre Seigneur, veuille bien accepter ma prière. Ô notre Seigneur, accorde-moi le pardon ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour où aura lieu le règlement des comptes. Dans chaque prière, on nous rappelle le jour où on aura des comptes à rendre. Cela veut dire donc que nous devons examiner chacune de nos actions et qu'on n'aura pas ces hasanat gratuitement. Afin d'acquérir ces biens d'ici-bas qui vont nous faire profiter des biens de l'au-delà, nous allons devoir examiner chacune de nos actions. Et on va devoir se tourner vers Dieu quotidiennement. On va devoir prier davantage. On va devoir établir la salat. Et on va devoir aussi encourager ses enfants à prier. On va devoir agir ainsi en tant que gardien de sa maison, en tant que berger de son troupeau. Et les membres de la communauté doivent prier les uns pour les autres. Nous devons demander pardon à Dieu, prier pour ses parents et prier pour les croyants le jour où on devra rendre des comptes. Le Messie premier, alayhi salam, a déclaré à propos de cette prière, Rabbana Fidli, qu'ici, on n'est pas en train de prier pour soi-même. C'est une prière que l'on fait au singulier, mais cette prière que l'on fait au singulier s'applique à tous. Celui qui est en train de faire cette prière ne prie pas uniquement pour sa propre personne, mais est en train de prier pour toute la collectivité. Ici donc, on est en train de prier pour toute la communauté, pour tous les croyants. Nous devons donc tout le temps réciter cette prière, qu'à la fasse que nous ayons l'occasion d'accomplir tous ces actes de vertu pour la cause de Dieu, et que nous puissions profiter des hasanat d'ici-bas et de l'au-delà, et que nous puissions marcher sur ces voies qui vont nous mener vers Dieu. Dans le même cadre, j'ai un autre point à mentionner, à savoir qu'il doit y avoir une différence entre un Ahmadi ordinaire et un responsable de la Jamaat. Le responsable doit être un exemple pour les autres dans ses actes d'adoration et dans ses devoirs, et c'est là que les Ahmadi ordinaires vont suivre son exemple. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Amin.